Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Yves Ravé, qui a quelques jours de retard malheureusement à cause des grèves. Donc nous avons dû repousser la conférence pour ceux qui se posaient la question. Nous sommes ravis de l'avoir enfin parmi nous. Donc Yves Ravé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Donc nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier roman, Enlèvement avec Rançon. Paru aux éditions de Minuit, comme la plupart de vos romans précédents. Donc, Enlèvement avec Rançon, dont on va dire quelques mots. Donc, le titre est assez évocateur, on dit donc de ce 16e livre. C'est l'histoire de deux frères, qui ont des prénoms assez particuliers, on y reviendra. Jerry et Max qui se retrouvent après des années de séparation pour organiser un enlèvement qui aura lieu avec une rançon. Donc on n'en dit pas plus pour l'instant, de toute façon tout était dans le titre. Et je vais vous proposer pour commencer de lire le début, lire l'Incipit, qui est très court. Donc si vous voulez, ça vous ennuie pas de le faire.
Non, vous voulez lire ou non? Non, c'est à moi de le lire.
Comme il vous plaira.
La nuit de son retour... Je suis allé de l'autre côté de la frontière helvétique accueillir mon frère à sa descente du train. Quand il m'a aperçu, Jerry a posé sa valise pour m'embrasser, me serrer fort contre lui et me dire qu'il attendait depuis une bonne demi-heure. Alors, j'ai compris que rien n'avait changé depuis son départ il y a 20 ans. Et tout de suite... Sans que j'oublie rien de ce qui nous liait, notre enfance, mon père et ma mère, nos rapports se sont tendus, qu'importe. Nous sommes restés longtemps sur le quai, dans les bras l'un de l'autre. Mais quand il a relâché son étreinte, il a demandé si j'étais toujours prêt à enlever la fille de mon patron, qui ne répondait pas à mes avances, et j'ai fait oui de la tête.
Voilà. Je vous remercie. Donc c'est vrai qu'on voit, particulièrement dans cet Incipit vraiment le style très économe, très minimaliste qui caractérise votre écriture. Justement, donc je voudrais que l'on commence vraiment avec ça. Ce style, il n'y a pas un mot en trop. Tout est donné, même quand on est un lecteur vraiment attentif. Là, on ne peut absolument pas se permettre d'être un lecteur passif d'Yves Ravé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se permettre de sauter des pages. Sinon, on ne s'y retrouve plus. Les détails sont très, très importants. Et donc, on le voit vraiment dans cet Incipit. Donc, j'aimerais savoir comment vous arrivez à une écriture aussi concise. Comment vous y prenez pour arriver à quelque chose d'aussi réduit. Est-ce que vous développez au départ et vous réduisez au fur et à mesure, ou est-ce que tout de suite vous avez l'art de la concision? Est-ce que c'est inné chez vous?
Un roman, j'ai le sentiment qu'un roman s'écrit comme on a envie de le raconter. C'est-à-dire que je pense que c'est d'abord une voix, une voix VOX intérieure. Et qui se développe au fur et à mesure de son parcours. Et je ne crois pas qu'on puisse écrire, parler, puisque je dis qu'on parle d'abord avant d'écrire, et que lorsqu'on écrit, on ne fait que transcrire ce qui est dit à l'intérieur de soi. Je ne suis pas certain du tout que qu'on puisse parler comme cela est écrit, voilà. C'est-à-dire que vous dites économie de moyens, ça veut dire peut-être le moins de mots possible, alors que à l'oral, quand on parle, on est, admettons qu'on parle pour convaincre, on donne de l'argumentation, et c'est un système de choses opérantes, qui se superposent et qui s'ajoutent. Alors que dans l'écriture, le contraire, c'est que ce sont des choses qui s'enlèvent. Voilà. Donc, dire tout simplement, livrer comme ça la façon dont on écrit, c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours des phases plutôt personnel. Enfin bon, l'écriture, c'est justement parfois se tourner vers soi. C'est d'ailleurs certainement un défaut, et puis c'est ce qui implique tant de narcissisme chez les auteurs. L'expliquer, c'est simplement dire que, dans un premier temps, l'histoire, je la raconte comme je la raconte. C'est-à-dire que je ne fais que transcrire ce qui se passe dans ma tête, ou ce qui me passe par la tête, parce que parfois il y a des choses qui sont liées au hasard, qui apparaissent. Et c'est ensuite, une fois que le texte est, enfin, c'est même pas un texte, au départ c'est quelque chose d'illisible, c'est un produit de plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de pages. Et à partir de là, j'ai le sentiment que le vrai travail d'écriture commence. C'est-à-dire que c'est ensuite que ça vient, voilà, où je vais donc ôter des éléments. Si on dit ça chez les plasticiens, en sculpture par exemple, vous avez deux démarches pour une même En sculpture, vous avez deux démarches. On part, par exemple, d'un bloc de pierre et puis on l'évide et à la fin, on obtient une forme. Ou alors, on part de rien et puis on ajoute. Et comme Giacometti soudait, par exemple, ses éléments. Contrairement à Michel-Ange qui, lui, va tailler à l'intérieur d'eux. Et ce qui reste de Michel-Ange, c'est rarement inintéressant, d'ailleurs. Hein. Bon. Mais ceci pour donner une image, voilà.
D'accord, donc c'est quelque chose de très conscient et vous le travaillez, d'accord. Dans un essai que vous avez publié au Solitaire intempestif, parce que vous n'avez donc pas écrit que des romans, vous avez écrit du théâtre aussi et des essais. Donc l'essai s'intitule « Pudeur de la lecture » pour ceux qui souhaitent le lire. Un texte extrêmement intéressant, très personnel, mais vraiment très très intéressant. Donc j'ai pu lire... Un livre se lit entièrement, l'histoire n'est pas complète s'il manque une page. Donc c'est un propos que vous attribuez à votre père. Donc ça a l'air de faire un petit peu écho justement à cette façon d'écrire, comme si vous souhaitiez presque punir le lecteur inattentif ou le lecteur qui a envie de faire vite, de lire pour dire ou pour justement pour dire oui, j'ai lu le dernier livre du prix Femina, parce que par exemple il était décerné aujourd'hui, pour faire bien, alors que au contraire justement chez vous on peut pas faire ça, on est obligé, et c'est pas un mal au contraire, mais on est obligé d'être très attentif au moindre mot, au moindre détail. Donc est-ce que c'est par rapport à cette phrase de votre père, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien justement entre...
La phrase me revient là, comme vous en parlez, c'était l'histoire que on peut avoir tendance à sauter des pages et à considérer dans la lecture et à considérer qu'on a lu quand même. Et effectivement, on peut toujours dire qu'on a lu et certains passages de certains romans. Mais là, je l'appliquais ou c'était appliqué dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, citons-le. Je crois qu'il y a un début qui est assez long sur l'histoire de Paris, l'histoire avec un grand H. Et donc, on peut entrer dans l'intrigue sans avoir lu l'histoire, par exemple. Mais je crois que c'est quand même il me semble que c'est un défaut. J'ignore moi cette thèse où l'on dit que on peut faire d'un livre ce qu'on en veut et puis que on peut en lire que la moitié et le poser s'il ne nous plaît pas. Alors s'il ne nous plaît pas, il ne nous plaît pas. Mais à ce moment-là, il faut engager une conversation sur ce sujet, quoi. Partant du principe qu'en règle générale, on devrait le lire entièrement, voilà. Et ce n'est pas ce texte que vous citez véritablement un essai. Enfin, c'est pas un roman, donc on dit essai, mais en même temps, je consigne simplement dans des textes à côté des romans où je ne fais jamais de référence littéraire, par exemple, ou culturelle, enfin, ou plastique, et je consigne dans des cahiers à côté des références d'auteurs, de choses comme ça. Et c'est plus une visite, quoi, de mes lectures. Donc dans Pudeur de ma lecture, voilà, je racontais comment je lis. C'est aussi important de lire que d'écrire, voilà.
C'est sûr, les deux sont inséparables. Mmh. Donc, vous faites pas mal de références à d'autres types d'art, notamment tout à l'heure la sculpture. Toujours dans ce même texte, vous avez une comparaison intéressante sur votre travail d'écriture. Donc, comme si... Alors, je suis en train de chercher... c'est pas Giacometti. C'était... Donc vous comparez à un artiste, à un peintre qui va faire des modèles avant de se lancer dans sa peinture, qui va essayer de les voir vraiment, pouvoir les positionner, voir les effets de la lumière sur telle ou telle chose. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et donc, comment travaillez-vous à l'écriture d'un livre? Et puis après, on va pouvoir aborder justement l'écriture de celui-ci. Comment avez-vous l'idée d'écrire ce roman? Donc, on va... L'idée
d'œuf. Comment je travaille l'écriture, je l'ai un peu dit tout à l'heure, par phase.
L'idée, en fait.
L'idée, il n'y a jamais d'idée.
Ah bon? Non, il n'y a pas d'idée.
Non. Non, parce que si j'avais une idée, ce serait un texte démonstratif. C'est-à-dire que j'argumenterais pour démontrer mon idée. Et je crois qu'il n'y a rien de plus laborieux pour le lecteur qu'un auteur qui veut prouver quelque chose. Et je crois que c'est mieux si... Si les choses coulent de source, alors ça c'est quand même relativement difficile, mais je pars pas ni d'une thèse, bien entendu, ça c'est clair, mais je prétends que je n'ai pas d'idée. C'est-à-dire que j'ai simplement des personnages qui apparaissent progressivement et qui vont, pendant tout le temps de l'écriture, revendiquer, c'est le terme que j'ai utilisé la semaine dernière en expliquant ça à des étudiants là en Flandre, qui vont les personnages revendiquent leur place en cours d'écriture, et le personnage qui ne parvient pas à tenir sa place disparaît progressivement ou est éliminé rapidement. Et je veux dire par là que c'est ces personnages qui apparaissent qui portent l'écriture et qui portent l'intrigue. Je vis la situation avec eux sans aucun recul. J'ai pas de préceptes, pas d'idées a priori préconçues. Quand ça démarre, j'ai quand même bien une idée en tête quand je dis que je suis allé accueillir mon frère et tout. Mais finalement, le frère, je sais moi-même quand je le dis, je ne sais pas vraiment qui je suis. Je sais que ça va venir progressivement. Si ça ne vient pas, eh ben je laisse tomber le texte et puis je le présente même pas, quoi. Ça veut dire que le roman peut pas exister. Mais par ailleurs, je commence à pressentir ce qui est le frère, et si je le place derrière la frontière que je cite comme étant helvétique, c'est parce que j'ai besoin d'une frontière pour que le frère puisse passer, par exemple, sans être déclaré spécialement. À ce moment-là, j'ai une réminiscence qui se produit. La frontière suisse, c'est les montagnes, c'est où les Alpes, ou le Jura, un peu comme le paysage d'ici. Hein. Et donc, c'est la neige, et puis voilà, il y a une réminiscence du ski, et la pratique du ski surgit progressivement en cours d'écriture. Mais je ne suis pas... persuadé au départ qu'il n'y ait pas plutôt une voiture qui attende, puis qu'on passe la frontière, auquel cas je démarre sur autre chose.
Vous avez souvent besoin d'une frontière dans vos romans, ça revient dans Bambibar, il y avait une histoire de frontière aussi, dans L'Épave, l'allemand revient, traverse la frontière tout le temps.
Je l'ai cité helvétique là parce que très souvent, alors j'ai quand même quelques critères, c'est à force d'entendre les reproches qui me sont faits, donc le fait de ne pas le localiser, donc j'ai pas du tout envie de localiser malgré tout, le seul fait de mettre helvétique, je peux vous dire qu'il y aurait eu des remarques sur le fait que je parle de ma région, que c'est le lieu où j'habite, enfin etc. Et c'est pour moi un vrai problème l'histoire de frontières, du moins son identité, parce que c'est pas obligatoirement la frontière suisse. J'ai des origines slovènes, autrichiennes, yougoslaves, et donc très souvent je me retrouve dans des frontières de ce type, et c'est pas obligatoirement facile alors à ce moment-là pour le lecteur d'essayer de situer les lieux. Et je sais pourtant que moi premier lecteur, Je sais combien c'est difficile quand on n'arrive pas à répondre à la question où, quoi, dans quel lieu on est, comment ça se passe. Ça rassure, quoi. J'ai quand même quelques données, mais ça arrive plus tard, quoi. Ça arrive plus tard quand je réécris, où je me dis, essaie quand même d'être un peu compréhensible. Parce que c'est pas toujours évident, quoi, de ne pas savoir avec qui, quand, comment, pourquoi, voilà.
Alors justement, on va essayer, par un souci de clarté, de développer un petit peu plus, si vous voulez bien dire quelques mots sur l'intrigue donc de ce roman, pour que les personnes qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore lu dans sa totalité puissent suivre un petit peu plus facilement, en tout cas.
Bon, je crois que l'intrigue, elle est résumée. Alors, vous avez dit l'incipit, c'est clair que le début, il est... Mais l'intrigue, il est dans le titre, quoi. C'est-à-dire que si je résume le roman, c'est un enlèvement. Puis ensuite, il y a une demande de rançon. Et ça s'appelle l'enlèvement avec rançon. Donc,
Bon, bah écoutez, on peut s'arrêter là.
Bon, la seule chose que je peux ajouter, si vous voulez, c'est que dans l'enlèvement, ça, j'ai pas eu trop de mal. Si j'imagine que moi, je le fais au moment où c'est dit dans le début, c'est la fille du patron du personnage qui s'appelle Max et qui est comptable dans l'entreprise, donc il décide d'enlever la fille de son patron. Et donc l'enlèvement, ça, c'est pas trop difficile. Il suffit d'enlever. Après tout, certaines personnes y parviennent très bien. Et demander une rançon, c'est pas si simple, mais c'est possible. Et donc ça, c'est les deux frères dont il est question parviennent à enlever la personne, la fille du patron, et à toucher une rançon. Mais le roman, il devient la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de la rançon, voilà. Hein, c'est toujours ce qui piège. Et là, on entre dans une autre dimension qui est celle que j'ai découverte en l'écrivant, c'est-à-dire que pour les deux frères, rien n'était réglé, et que la somme d'argent, c'est une part symbolique. Deux frères, en plus, qui ont à partager la même somme d'argent, il suffit qu'il y ait un billet en trop à un certain endroit, et puis ça y est, les choses deviennent un peu plus difficiles, et puis la rançon n'est plus une rançon, ça devient un problème. Et il faut compter aussi avec cette jeune fille qui se fait enlever, quand même, voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent au fur et à mesure que comme je dis, les personnages apparaissent. La fille du patron, en définitive, j'ai dû le mettre en plus tard, mais c'est elle qui... Je savais qu'ils allaient enlever quelqu'un, je ne savais pas encore exactement qui. Ça aurait pu être la nièce, ça aurait pu être la voisine, ça aurait pu être X et Y. L'intrigue faisait que c'était bien que ce soit la fille du patron. Voilà.
Donc le mobile, c'est, comme on l'a vu dans l'incipit, parce qu'elle ne répondait pas à ses avances. Donc là, on a vraiment le sexe et l'argent qui sont liés inextricablement. Donc les relations entre ces deux frères sont un peu compliquées, par contre. Ça, on pourrait développer un petit peu là-dessus.
Je pense que les relations entre deux frères ou dans la fratrie, comme on dit, sont toujours compliquées. Donc tout dépend ensuite comment les choses se présentent, selon l'urgence de la situation. Et là, on est en situation plutôt radicale, où les choses, quand les choses deviennent urgentes, il faut décider rapidement. Si on décide rapidement, on réfléchit moins. Si on réfléchit moins, les actions sont plus irréfléchies, quoi, plus brutales, peut-être plus radicales, plus. Et donc c'est cet ensemble-là qui va faire que, à mon sens, enfin bon, comme je l'avais entendu, mais c'est pas facile pour moi de raconter une intrigue, parce qu'on a le sentiment que on double le roman, ou bien c'est pas simple. On n'est pas obligé de le lire, mais il suffirait de le lire, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Ça sert pas à grand chose.
Non, la lecture. D'accord. Et alors justement, les prénoms de ces deux frères, tout comme les noms d'une façon générale, je suis désolée, mais on ne va pas y couper, on va faire un petit peu d'onomastique, parce que chez vous, c'est particulièrement intéressant. de voir donc autant pour les lieux, vous restez souvent dans le vague, comme vous le reconnaissez vous-même. Mais en ce qui concerne les noms, c'est assez particulier. Alors qu'il s'agisse de celui-ci, donc les deux frères. Donc on a dit donc Jerry et Max. Excusez-moi, à chaque fois je bute parce que j'ai envie de les appeler Tom et Jerry. Donc ça c'est
oui.
Autre chose. Mais donc Samantha aussi. Enfin, il y a des prénoms comme ça ou des noms. Alors dans d'autres, ça va être Lindberg, Carossin, List. Pardon. C'est toujours des prénoms très très surprenants. Donc comment arrivez-vous à... Enfin, qu'est-ce qu'ils représentent en fait pour vous, tous ces noms? Comment les trouvez-vous?
Le comptable, bon, il s'appelle Max, je ne vais quand même pas aller le chercher si vous...
Non, mais enfin, non, Max, ça passe encore, mais l'association
lettres,
des
hein.
deux...
par rapport au prénom plus nom.
Oui, prénom et nom, ou les deux frères, ouais. Quand on les dit ensemble, les autres personnages d'une façon générale.
Non, c'est surtout l'autre, le frère s'appelle Jerry. Je crois que c'est surtout le... Comment est-ce qu'on peut dire? C'est très difficile de choisir un prénom et un nom. Je veux dire, c'est un nom, il nous porte, quoi. Il nous identifie, il nous marque. On s'appelle pas n'importe comment, pourquoi Dupont et puis Roger ou François et puis etc etc, ou un prénom américain ou polonais ou algérien, voilà. Et on a une tendance à penser dans la construction romanesque peut-être que le roman, enfin le nom des personnes doit correspondre à leur statut. Et j'ai le sentiment moi que ça réduit quand même les choses. Si on se souvient des, par exemple des classes, à l'école, des classes dans lesquelles on était, on avait toujours des personnes. Il y a toujours des gens, nous-mêmes d'ailleurs aussi, qui ont un nom peut-être un peu particulier ou un prénom, et c'est marquant. Et ça peut même être stigmatisant. Et une personnalité, un individu ne doit pas obligatoirement recevoir le prénom qui lui est adéquat. Et le prénom qui est adéquat, quel est-il ? Quel est-il ? Et pourquoi est-ce qu'on l'a donné à cette personne, et en quoi ça va le définir tout au long de son existence, si c'est le nom de du père, de la grand-mère morte, enfin, etc., etc. Et premièrement. Deuxièmement, par rapport aux nationalités, ça se remarque au moment où on lit un roman, parce qu'on pense que dans le roman il faut mettre des noms qui sont peut-être un peu évidents, mais par exemple vous prenez les noms dans le peloton du Tour de France par exemple, les équipes, je peux vous garantir que des noms, vous en avez des très compliqués, des très complexes, il faut s'y retrouver, c'est pas si simple quoi. Et donc j'ai cette idée que c'est pas systématique, parce que je ne souhaite pas comme ça travailler avec des systèmes, mais je trouve qu'un personnage ne doit pas recevoir obligatoirement le nom qu'on attend. Alors ensuite c'est le problème du lecteur. Le lecteur, lui, que je suis aussi, donc je le répète, il travaille aussi avec un imaginaire. Et si X s'appelle Alain dans le roman, pour le lecteur A, ça va être Alain va lui faire penser à telle personne, et puis Alain pour le lecteur B va lui faire penser à une autre personne. Donc on tisse des relations qui ne sont pas si simples que ça, qui engendrent à mon avis toute une complexité de pensée, voilà. Et j'aime bien que on réfléchisse à ça. Et quand même, en même temps, ce comptable, il s'appelle Max. Donc quoi de plus simple et de plus évident qu'un comptable qui s'appellerait... enfin, c'est trois lettres, quoi. Et Jerry, bon, évidemment, on peut tomber dans la référence au dessin animé, on peut... bien entendu. Mais dans le roman précédent, je sais qu'à chaque fois, les questions posent... les questions sont posées sur... par exemple, j'ai un personnage qui, enfin, mais prenez un annuaire des téléphones, je crois pas que vous puissiez être plus choqué que dans mes romans, hein. J'ai un personnage qui s'appelle Pithiviers, et dans Cutter. Et c'est l'oncle, c'est un méchant, c'est un dur, c'est un barbare, voilà. Et puis, moi, quand je l'ai écrit, j'ai pensé à... je voulais un nom profondément... enfin, dans mon imaginaire, comme ça, je le voulais profondément français. Donc, Pithiviers, voilà, il y a une ville. Alors après, voilà, on me dit, mais Pithiviers, c'était un camp où on parquait les gens qui devaient partir ensuite en camp de concentration. Donc, c'est intentionnel de votre part. Et moi, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais c'est vrai qu'un nom, il reçoit plusieurs définitions, quoi. Ensuite, Pithiviers, c'est aussi une pâtisserie. Oui, dans une région de la France, là, ils font ça avec des amandes, c'est un très bon gâteau, voilà. Et moi, je trouvais qu'un barbare l'appelait avec un nom de gâteau, mais j'avais pas pensé au camp. Et puis, Pithiviers, c'est aussi, et ça a été rappelé par c'est là que j'ai vu qu'un professeur d'université pouvait avoir une culture cinématographique. Si vous avez déjà vu l'excellent film La Septième Compagnie, avec Jean Lefebvre.
D'accord.
Bon, moi, je cite ce que je vois. Hein. Bon, eh bien, vous avez un personnage qui s'appelle Pithiviers.
D'accord.
Le quincailler s'appelle Pithiviers. Et puis, personne n'est allé à dire, oh là là, quel nom il a, ce quincailler. Franchement, non, il est tellement bête. Et le film est tellement mauvais que Pithiviers, ça va, c'est parfait, quoi. Donc, ici, il s'appelle Jerry et le patron s'appelle Salomon de prénom. Ça m'intéressait qu'il ait... C'est vrai que j'ai eu un faible à ce moment-là sur lui par rapport au prénom juif, aussi à l'hébreu. Salomon, c'est pas n'importe qui non plus. Et puis son nom, c'est Pourcelo. Alors pourquoi Pourcelo, quoi, voilà. C'est un peu comme Pithiviers.
Un nom de famille à la rigueur, mais les prénoms... Donc, Samantha aussi.
Mais Samantha, si vous...
On se croirait
oui, mais...
un côté un peu burlesque, un peu décalé pour un roman très sombre.
Sauf que prenez toutes les séries américaines que vous regardez, enfin que parfois on regarde. d'accord, autant les séries et puis les. Eh ben prenez le générique. Prenez le générique et suivez le générique, vous verrez les noms. Phil, Douglas, etc. Mais comme il y a le melting pot et tout. Donc non, c'est. C'est presque un phénomène de mondialisation, les prénoms. Vraiment, dans les classes scolairement, aujourd'hui, on a des... Et c'est très beau, c'est très bariolé, c'est très multiforme, quoi.
D'accord, donc vous inspirez des prénoms aussi que vous voyez en cours, parce que donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas que M. Ravé enseigne l'art plastique.
Yves Ravé, oui.
Yves Ravé enseigne l'art plastique, donc je suppose que vous voyez effectivement défiler un sacré paquet de prénoms originaux.
Oui, vous avez une élève qui s'appelle Iris. C'est un nom de fleur d'abord. Et c'est étonnant. Voilà.
On n'a pas idée de s'appeler fleur, effectivement. Ou pas un nom de fleur. D'accord. Excusez-moi. J'en perds mes mots. Un autre qui était intéressant, qui va pouvoir nous servir de lien, c'était le nom que vous utilisez dans l'un des romans, qui était peut-être l'un des plus personnels. Je fais allusion au drap, le drap. Donc, Lindbergh Carossa. Donc là, je voudrais insister sur le nom de famille, Carossa, pour faire le lien, attention, ça va être un petit peu lourd, mais avec les voitures. Vous avez quelque chose, là, ça m'a vraiment, pas choqué, mais vraiment, ça a attiré mon attention. Votre fascination pour les voitures, déjà, une voiture n'est jamais une voiture, dans un roman d'Yves Ravé, c'est toujours la marque de la voiture. Et alors là, on a un défilé de voitures dans tous vos romans, c'est impressionnant. Donc rien que dans Enlèvement avec rançon, donc il y a le Ford Transit, il y a la Clio de Samantha, bon finalement la Clio c'est assez...
anodin.
Oui voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Il y a la Velsatis, donc une Renault, bon. Mais c'est le nom encore une fois qui parle. Est-ce que quand vous choisissez, déjà pourquoi est-ce que ça a autant d'importance pour vous déjà les voitures? Première question. On commence par.
Moi je pense que ça a de l'importance pour tout le monde. Hein, j'en suis. On prend sa voiture. Bon, il y a des gens qui savent pas quelle voiture ils conduisent. Ça arrive. c'est vrai. Mais ça m'étonne toujours parce que c'est un objet comme un autre, quoi. Et C'est peut-être plus marqué aujourd'hui. Je ne sais pas, je l'ai remarqué avec le précédent roman où j'avais mis des voitures peut-être plutôt aux années 70, par exemple, ou années 60. Et je me suis rendu compte quand même que la culture de la voiture n'est pas la même du 20 ans en arrière et aujourd'hui, ou 50 ans en arrière, entre des voitures qui doivent consommer le maximum pour obtenir un statut un peu important de voiture, et aujourd'hui où il faut par exemple consommer le moins possible.
Sauf aux États-Unis, hein. Ils continuent.
Ils font ça aussi. Enfin, je crois qu'ils font ça aussi. Enfin, bon, ils continuent à avoir des grosses voitures, bien sûr, mais sérieusement, quoi. Donc, oui, je sais que pour moi, c'est un objet qui fait partie de la panoplie, quoi. Enfin, de l'identité. De l'identification.
Donc un peu sur le mode.
C'est un lieu de projection, oui.
Donc dis-moi quelle voiture tu connais, je dirais qui tu es.
Peut-être pas obligatoirement, peut-être comme les prénoms, si vous voulez, la Velsatis. Moi, je reviens dans l'étymologie et ça me travaille tout le temps, ces choses-là. Et la Velsatis, Renault est en train d'arrêter de la fabriquer parce que, voilà, donc c'est une voiture qui disparaît, peut-être. Je sais aussi qu'il y a en ce moment un père de famille qui met Renault au tribunal parce que ils appellent la voiture électrique Zoé. Vous voyez, encore un problème de nom. Oui. Et le père dit, si ma fille s'appelle Zoé, elle aura un nom de voiture. Et Renault, il leur dit, a défini qu'il y avait des Méganes, que ça existait, qu'il y aurait quantité de marques publicitaires qui ne pourraient pas exister parce que elles ont des prénoms féminins. Et donc, ben voilà, peut-être derrière la voiture, il y a beaucoup de prénoms féminins, de sens, peut-être de relations d'affection aussi, pourquoi pas. Maintenant, on dit que c'est plutôt les hommes, fait que c'est très machiste la voiture aussi, non ? Donc, je sais pas, ça, moi, ça me passe dessus, hein, voilà.
Moi, j'en train de penser surtout aux oui. Anglais, à l'affection chronique des Anglais pour les bateaux, qui se traduit dans le langage par she au lieu de it, alors que normalement ça serait le cas.
Ah oui, oui.
Je suis en train de me dire que les voitures avaient autant d'importance pour vous. Mais justement, quand vous choisissez une voiture, est-ce que vous avez le modèle en tête ou est-ce que c'est uniquement le nom qui parle
Non, j'ai le modèle tout le temps. Non, donc, j'ai le modèle, je suis obligé parce que s'il y a une. Ça ne se manifeste pas dans le texte, mais je suis obligé de vérifier certaines choses. La Velsatis, elle a un coffre, par exemple, avec un haillon, enfin des choses comme ça. Il y a des données techniques, de forme, qui sont importantes et avec lesquelles on peut pas plaisanter. Voilà, il y a une forme de réalisme dans le texte que je ne veux pas nier, quoi.
Oui, c'est une forme de contrainte quand vous choisissez toutes les
personnes. Oui, à un moment donné, il faut regarder, puis une sorte de plaisir aussi, quoi, voilà.
Parlant de plaisir, rien que la prononciation de cela, alors je vais certainement mal le dire, mais c'était NSU Prince Wankel Spider, je ne sais pas comment vous dites ça, dans l'épave. Alors celle-là, je ne sais plus d'où vous l'avez trouvée, mais c'est la voiture avec laquelle revient l'allemand à la fin du roman.
Ah oui.
Alors c'est quand même assez fort, mais de toute façon, dans tous vos romans...
Oui, c'était une marque de voiture allemande qui a disparu. Mais les voitures, on a une relation humaine avec les voitures. Je connais une dame qui, dans la région où j'habite, roule en Mercedes, mais refuse l'étoile parce qu'elle est juive. Voilà. Voilà un rapport.
En ce qui concerne les lieux aussi, c'est assez marquant, même si tout à l'heure vous signaliez qu'effectivement on vous reproche de temps en temps que ce soit un petit peu difficile de voir exactement où se déroulent vos romans. Il y a quand même certains lieux, notamment dans la maison, qui reviennent fréquemment. Donc je pense par exemple à la salle de bain dans celui-ci. Donc la salle de bain dans laquelle Samantha va faire plusieurs...
recoudre.
Oui, va recoudre sa montagne de son caraco, oui. Par exemple. Et dans d'autres romans, en fait, quand on les lit comme ça les uns après les autres, on fait le lien, c'est assez surprenant. C'est également dans la salle de bain que le frère du narrateur de Bambi Bar s'est suicidé en faisant exploser avec un explosif. C'est surprenant aussi de voir que dans l'épave, il n'y a pas de salle de bain au départ, dans la maison dans laquelle habite le narrateur, le personnage principal et son ami. Donc qu'est-ce que vous avez avec la salle de bain? Est-ce que c'est une allusion au roman de Jean-Philippe Toussaint, ou est-ce que qu'est-ce que vous avez avec ce lieu? Est-ce que c'est conscient, moi?
les noms et les voitures, ça, je suis habitué. J'avoue que la salle de bain,
vous l'avez jamais faite, celle-là.
Et donc le problème, c'est que les romans, je préfère les circonscrire, c'est-à-dire que ça doit être limité à certains endroits, et ça doit être défini comme... il faut que ce soit un lieu géographique, mais spatial, dans lequel on peut itinérer, dans lequel on peut se promener, puis on devrait presque pouvoir s'y reconnaître. Je travaille toujours avec un plan pour savoir si c'est à gauche, à droite, au nord, au sud, devant, etc. Et la salle de bain, là, j'avoue que...
Même plus que ça, il faudrait appeler Freud.
Ça tombe. Non, on peut, mais c'est quand même je ne veux pas me mettre à disserter sur les salles de bain, mais c'est un lieu très important, je pense, c'est un lieu très important. Mes personnages, ils peuvent être dans le salon, dans la cuisine, ça c'est évident, mais je crois qu'il y a... Il y a souvent, si je mets une salle de bain, c'est qu'il y a nécessité, voilà. D'accord. C'est qu'il y a ça s'impose dans le cours du récit, et ça doit être fréquent, mais j'ai pas d'explication, mais je retiens je vais y réfléchir.
D'accord. Vous nous direz l'année prochaine pour le prochain. donc vous dites que vous travaillez.
J'en ai pas là. Oui.
Pardon.
Ouais. Je ne crois pas que j'en ai, là, pour l'instant.
Encore. Vous travaillez avec un plan. On a l'impression, souvent, en lisant vos romans, qu'il y a une impression de huis clos qui peut être générée dans l'esprit du lecteur, quand bien même ces romans se passent dans des lieux assez différents, pas uniquement à l'intérieur, pas uniquement dans des salles de bain, ou dans des cuisines. C'est quelque chose que vous travaillez également, je suppose, tout à fait consciemment?
Oui, le huis clos me paraît, moi, tout souvent nécessaire pour enfermer les personnages à l'intérieur d'une, pour que les relations s'établissent entre eux, quoi. Dans le huis clos, c'est pas toujours des huis clos, bien entendu, mais la fuite est moins possible, quoi. Et on doit étudier à chaque fois le comportement, quoi, des personnages. Je fais la remarque là qu'effectivement la salle de bain dans une assez souvent dans une pièce, dans une maison ou dans un appartement, ça peut être la pièce qui est murée, quoi. Enfin, il n'y a pas de fenêtre souvent.
Souvent.
Oui. Ouais. Et non, mais je dis souvent, pas tout le temps, hein. Attention.
Non, mais souvent, oui.
Et ça a certainement du sens. En même temps, dans la salle de bain, il y a le miroir, ça c'est clair. Ça, j'en ai besoin à chaque fois quand elle part pour, par exemple, pour recoudre ce qui est bon, voilà. Et puis, je crois que le miroir, c'est important. J'en resterai au phénomène du huis clos comme élément qui permet de circonscrire les actions des personnages, voilà.
Et pourtant...
Je suis en train de lire la Kerouac, là, sur la route, la nouvelle traduction... qui est paru il y a un certain temps, je suis pas spécialement en avance, mais enfin bref, et il est toujours, c'est ce qui m'étonne là, il est toujours le personnage, il publie ça en 47, donc il est sur la route, il est donc ce qu'on appelle aujourd'hui avec tant de un road movie, et il est toujours, il passe de Denver à Cincinnati, de Cincinnati à Cheyenne, il passe dans le Dakota, etc. Dans une page, il a traversé toute l'Amérique pratiquement. Et c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et je trouve ça, remarquable, quoi. Que il y a une densité de. Mais en définitive, étant donné qu'il a que quelques personnages, Kerouac, c'est comme un huis clos. C'est les États-Unis qui sont devenus un immense huis clos, jusqu'à la frontière mexicaine, Los Angeles. C'est toujours très 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 délimité, quoi.
Et justement, même si dans vos romans, notamment Enlèvement avec rançon, c'est très délimité, on a toujours l'irruption du monde extérieur, avec par exemple ce frère, donc Jerry, le frère aîné, qui revient d'Afghanistan, avec souvent aussi des immigrés. On retrouve, alors là, ce sont les immigrés, enfin les ouvriers syriens. Dans des romans précédents, ça peut être des Turcs, des Espagnols. On retrouve toujours cet élément extérieur, en fait, avec une préoccupation sociale sous-jacente. On dirait un petit peu qu'on pourrait, je sais pas, lier au monde qui semble vous intéresser. Donc, ce sont souvent des usines ou oui, enfin, l'imprimerie dans le Dara. Enfin, c'est souvent des usines.
Oui, l'imprimerie. Donc, ben je pense qu'un roman, enfin, je suis pas là pour donner des définitions et c'est pas la question, mais le roman, je pense que c'est un objet littéraire, voilà. Ça, c'est clair et net. Si tant est qu'on puisse en être capable un jour, il faut que ça puisse s'appeler littérature. C'est là que ça existe, que ça réside. Mais il n'empêche que ce lieu clos, qu'est le roman, est traversé par le monde, traversé par les événements, par la politique, par l'immigration, par tous ces phénomènes, par la terreur, par le terrorisme. Donc quand mon personnage qui s'appelle Jerry revient après 20 ans passés en Afghanistan, il est bien clair qu'en Afghanistan, il a suivi une pratique particulière, je veux dire. On vient pas d'Afghanistan après 20 ans avec une armée et puis prêt à faire sauter toute la France, enfin tout le pays, sans qu'il y ait eu quelque chose. Et donc, moi, ça, simplement, ça me permet de donner une résonance contemporaine au texte. Sachant qu'en même temps, vous parlez d'usine, ça, je ne pense pas que le rôle d'un roman, si vous voulez, ça soit d'étaler des situations sur l'usine, sur l'exploitation, sur les conditions de production, sur la mondialisation, enfin, etc. Ça entre en ligne de compte et ça me paraît extrêmement important, mais ça ne fait que traverser. C'est une donnée à l'intérieur d'eux qui permet de façonner une forme peut-être plus réaliste, plus proche, quoi. Ces deux frères, il y en a un qui est comptable, c'est une usine d'emboutissage, l'autre qui vient d'Afghanistan. Il se passe bien quelque chose. Je pense pas qu'on écrive comme ça, coupé du monde. Donc on l'objet roman est coupé du monde, je crois, dans la mesure où il faut être précis. C'est pas un document sur une usine, un roman, voilà. Et en même temps, il est traversé par toutes sortes de partout, toutes les possibilités, toutes les et simplement ce frère qui venait d'Afghanistan, qui vient d'Afghanistan, c'est vrai que l'islamisme nous travaille tous, c'est évident. Ça nous fait poser beaucoup de questions. Et je cherchais. Ça, c'est le roman, en fait, est parti de cette idée qu'il fallait qu'il vienne d'Afghanistan. J'avais en mémoire un personnage que j'ai croisé, mais il y a très très longtemps, étant moi-même adolescent, si vous voulez, et qui que je revois 2 ans après, et qui m'avait dit, ben j'ai trouvé une solution, voilà, c'est le terrorisme. Et c'est vrai que qu'il en ait fait ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vraiment une question importante. Je me souviens l'autre jour, enfin de mes fils qui me téléphone, enfin l'autre jour, il y a deux ans, et on était au cœur de ce qu'on a appelé l'affaire Battisti. Bon, voilà, moi j'ai pas ni de Battisti est auteur de romans policiers. Il a vécu en Italie. Il était réfugié politique en France. Et puis brutalement, les choses ont changé. Il a fui. Et donc la question, on en pense ce qu'on en veut, bien entendu. Et je me souviens de mon fils qui me disait « Mais regarde, j'ai un livre dédicacé, il se trouve qu'un jour, voilà, dans une séance, voilà. » Et donc je veux dire que c'est très très présent, quoi. C'est un problème en même temps. Donc je voulais pas en faire l'économie. Et je pense que le que le frère, il a une fonction particulière du fait que... Mais voilà, je dirais que le texte, il ne traite pas du terrorisme. Non pas que je me déresponsabilise et que je fuis par rapport à ça. Si je voulais qu'il traite du terrorisme, eh bien, je ferais une enquête sur le terrorisme, un livre d'histoire, de sociologie, de journaliste. Et puis, je trouve que c'est bien de le traiter sous la forme du roman. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est plus un livre sur le terrorisme. Ça ne peut pas être... C'est un livre sur la terreur. Du mot du terrorisme à la notion de terreur, le concept, il se déplace et il se développe et il devient plus... La terreur, ça ne devient... Ce n'est pas uniquement l'attentat du World Trade Center, voilà. La terreur, c'est aussi... elle est aussi à l'intérieur de la relation familiale. Elle est aussi à l'intérieur d'une usine. Voilà. Donc j'avais ce sentiment de pouvoir, pas l'évacuer, mais l'exprimer. C'est-à-dire avec ce souci, eh bien, un livre, c'est pas quelque chose de coupé du monde. C'est pas parce que je cite pas telle période précisément que... voilà. Comme la barbarie dans mon livre précédent, Cutter, où... il y a une chose très difficile pour un animal, voilà. Ce qui, bon, voilà, c'est pas obligatoirement simple.
Donc un livre sur la terreur, mais aussi un livre sur la confiance. Là, c'est lié. Donc les relations entre les deux frères sont compliquées au point où on voit vraiment que ils se font difficilement confiance et avec raison quand on voit ce qui se passe. Donc ça revient aussi de façon récurrente. Ce thème de la confiance et de la trahison, donc c'est un mot qui revient très très souvent.
Donc je le répète, je ne pouvais pas dire je vais écrire sur la terreur parce que ça serait un livre terrifiant et inintéressant au possible avec le projet d'écrire sur la terreur. Il se trouve que la relation des deux frères peut engager un rapport qui est relatif à cette idée de terreur. Voilà, c'est ça qui est différent. Et donc, en même temps, c'est un roman. Un roman, à mon sens, c'est une intrigue, page à page, page après page, il se passe des choses. Et les deux frères, ils se confrontent l'un avec l'autre. Et en même temps, il y a engagement d'une... Ce qui est peut-être... Moi, ce qui m'a retenu là-dedans, c'est qu'ils ont quand même cet argent. Et il se trouve que l'un a quand même envie de prendre l'argent de l'autre. Donc, comment il fait? Comment il pratique? Quelles sont les techniques à adopter et c'est là que je crois que l'histoire m'intéressait en ce sens-là, voilà. Comment je fais, voilà.
D'accord.
Comment je fais pour voler l'argent à mon frère, voilà.
Les sacs de sport. donc vous parliez de... En fait, on va évoquer une question assez française, la question de la classification. On est toujours très intéressé par ça. La classification, donc là, vous parliez du fait que vous avez choisi d'écrire des romans, et non pas des documents, et non pas des essais, etc. Alors, à l'intérieur du roman, il y a plusieurs genres. Dans celui-ci, comme dans pas mal d'autres de vos romans, on retrouve les ingrédients caractéristiques du roman policier, et pourtant, ce n'en est pas un. Même si, voilà, il y a du suspense, même s'il y a une histoire de gendarme, un enlèvement, une rançon. Est-ce que c'est un genre qui vous intéresse? Est-ce que vous envisageriez d'écrire un roman policier? Ou est-ce que vous jouez justement avec les codes?
Je sais qu'il y a des catégories, on peut dire roman d'aventure, roman d'amour, roman, puis même des fois par rapport au lieu, roman anglais, roman américain, enfin bon, etc. Et bon, c'est des catégories qui existent, moi elles ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que le phénomène, c'est que racontant l'histoire... effectivement, il y a des éléments de la littérature policière qui peuvent apparaître, mais en aucun cas... Si on veut le prendre comme tel, par ailleurs, ça ne me gêne pas du tout. Je n'ai aucun complexe par rapport à ça. Je trouve qu'il y a une belle littérature policière que j'apprécie chez certains auteurs, dans certains livres. Et puis en même temps, je sais bien que d'un côté... Je dois reconnaître que ça ne me fait rien du tout. Puis d'un autre côté, je souffre un peu de voir la critique donner difficilement une définition. On ne sait jamais entre quoi et quoi je suis, quoi. Et donc j'ai l'impression que j'ai une image un peu brouillée parce qu'il y a des catégories. Alors qu'il faudrait simplement dire c'est un type qui écrit ce qu'il ressent et puis qui a une histoire et puis ça va pas plus loin. Je voudrais que ce soit simplement ça. Mais il y a toujours cette question, oh là là, qu'est-ce que c'est ? Où il faut le mettre ? C'est pas psychologique, c'est pas... Enfin, etc. C'est si, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est difficile de travailler avec des références toujours comme ça. Voilà.
Et pourtant, c'est ce que... Vous êtes professeur, et donc c'est vrai que c'est ce qu'on nous apprend... Apprends à nommer les choses.
Et donc c'est... Je suis d'accord. Oui, d'accord. Non, mais très bien. Mais quand j'écris, je ne suis pas du côté. Enfin, si. Alors, si un prof écrit comme il enseigne, je vais vous dire qu'il ne va pas loin.
Hein. C'est sûr.
C'est d'ailleurs parfois le cas. Mais bon. Mais c'est... non, ce n'est pas possible, quoi. On ne peut pas.
D'accord. Une dernière question.
Non, ou alors on se met dans des limites, dans des ornières, et puis on n'en sort pas. Si je devais dire maintenant, il faut que ce soit policier. Alors, entre policier et espionnage, par exemple, on fait comment ? Et puis, dans le fond, c'est quoi un roman policier ? On le classe policier dans la mesure où il y a un policier. C'est vrai, s'il n'y a pas de flic, il n'est plus policier. Et enfin, je crois, moi. Hein, dans ce roman-là, il n'y a pas de policier, puisque le patron... Pour ce lot,
oui.
Il résout les problèmes avec ses ouvriers. Il les envoie dans sa camionnette et puis ils vont faire le travail des policiers. Donc il n'y a pas de policiers.
Ouais. Voilà. donc oui, une dernière question. Dans Pudeur de la lecture, pour y revenir, vous citez... Vous écrivez quelque chose qui peut être un petit peu paradoxal, donc qui concerne la réflexion que l'on fait souvent, à savoir qu'un écrivain écrit toujours le même livre, donc c'est certes un peu bateau, mais c'est une préoccupation néanmoins importante. Et donc à ce sujet, vous écrivez « J'ai alors eu cette idée qu'il m'était impossible d'écrire deux fois la même chose, qu'une scène décrite dans un livre ne pouvait l'être dans le suivant ou dans tout autre livre. » Nous décrivons toujours la même scène pourtant. Nous faisons toujours, et sans raison, un rêve semblable au rêve antérieur. Sans cesse, nous courons vers des songes qui se ressemblent. Et dans la mesure où on retrouve quand même un certain nombre d'éléments qui traversent vos romans, comme la mort de personnages proches dans la famille, souvent la mort d'un père, les lieux, les voitures, etc. Que pensez-vous finalement de ça ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'un écrivain écrit toujours le même livre, et vous en particulier ?
Ben, il paraît que les écrivains, oui, c'est souvent la même... parce que je lisais Kerouac là, mais je regarde après tous les titres de son répertoire. Effectivement, c'est toujours les mêmes... Ça tourne toujours autour de la même situation, quoi, du voyage, de la même époque, de la Beat Generation, etc. Après, moi, je sais pas trop. Moi, j'ai le sentiment de ne pas écrire le même livre chaque fois. Voilà. Ça, c'est. Du moins, de ne pas écrire la même histoire. Voilà.
Est-ce que.
Je change le. Quand même, je crois, oui.
Est-ce que votre incursion par le théâtre et les essais, du coup, mais bon, je sais pas comment dire, les écrits intimes que vous pouvez réaliser par ailleurs, est-ce que c'est une façon. D'éviter ça, d'éviter cet écueil ou...
Ben, quand je disais tout à l'heure circonscrire le lieu, en théâtre, c'est quand même ça. On sait qu'on doit pas on a une unité de lieu, on peut pas la bouger. Et il se trouve que... ma dernière mésaventure dans le théâtre, c'est quand même que l'administratrice du Français prend une pièce de théâtre qui doit être jouée là. Et donc mis en scène. Et puis en définitive, elle a pris un roman. Elle a pris mon roman qui s'appelle Le Drap, où je raconte la mort de mon père. Et je lui disais, mais comment on fait, quoi ? On écrit des pièces de théâtre et puis vous prenez dans le roman. C'est difficile à comprendre. Vous voyez,
ça aussi, c'est.
Ben, elle m'a posé le problème des catégories. Elle a dit, c'est un texte et puis c'est tout. Et le fait est que le drap, ça se situe, ce roman, il se situe dans la chambre, voilà, c'est la chambre, c'est la maison de mon père et c'est la chambre et voilà. Donc l'acteur, il n'a plus qu'à, enfin le metteur en scène, ils n'ont plus qu'à s'adapter au texte et puis à le mettre en scène et puis à le jouer, quoi. Donc ils vont le jouer comme un texte de théâtre. La seule consigne que j'aurais donnée, c'est que le texte doit être dit entièrement et il ne doit pas être lu. Il doit être comme un texte de théâtre, appris, et il ne faut pas que ce soit réaliste, quoi. Mais donc, pour revenir à votre... est-ce que j'ai répondu à votre question
À peu près.
Si le théâtre permet de...
Oui, d'éviter cet écueil, oui.
Quel écueil
D'écrire toujours la même chose.
Ah oui.
D'avoir...
Moi, il me semble, oui. Mais j'en écris plus de théâtre, là.
D'accord. Vous...
J'ai compris.
Vous avez...
La dernière fois, j'ai dit, allez, c'est bon.
C'est à cause de cette anecdote, là.
Bah, c'est des fois un peu suffisant, enfin, quand même, quoi. J'ai 15 pièces de théâtre à présenter, on prend le roman. Bon, ça pose des questions, quand même. Hein. Je vais vous dire que...
D'accord, et donc vous travaillez sur votre prochain roman, là ? Vous avez commencé ?
Oui.
Est-ce qu'on peut savoir un petit peu de quoi ça parle ? Ou est-ce qu'on peut avoir ce que vous voulez bien nous donner ?
Non, pour l'instant, ça reste dans la... Enfin, ça commence à être moins flou, mais ça reste très confus, quoi. J'espère pouvoir tenir les personnages comme ils sont, la situation comme elle est. Voilà, je sais pas. J'ai au moins un an de travail encore, là.
D'accord. Donc
oui, minimum.
Minimum. Donc
oui.
On l'aura peut-être pas pour la rentrée
non.
prochaine.
Oh non, non. Non, non. Non, et le drap, c'est au mois de mars, voilà, au Vieux Colombier.
D'accord.
Donc je me place.
Mais très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'être venu, d'être enfin venu nous voir. Voilà. Merci, à bientôt.